Vous écoutez
RMC.
Vendredi 10 juillet,
l'info sur RMC.
Il est presque 6h. Céline Kallmann est là pour les dernières informations. Céline, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Notre-Dame restaurée à l'identique, charpente en bois, toiture en plomb. Décision de l'Élysée saluée par de nombreux architectes. L'Assemblée a voté hier soir un troisième budget de crise. 45 milliards d'euros supplémentaires pour secourir le tourisme, l'automobile et l'aéronautique. Et puis chocolat, kiwi, concombre, poisson, menu idéal pour éviter le coup de pompe en voiture. C'est rouge pour les départs aujourd'hui en Île-de-France, orange partout ailleurs. Il est 6h sur RMC, bienvenue. Aux oubliettes, une cathédrale au toit végétalisé, une flèche en verre, ce sera finalement comme avant, avant ce 15 avril 2019 où une partie de l'édifice est partie en fumée. Notre-Dame de Paris sera donc reconstruite à l'identique. Emmanuel Macron abandonne le projet d'une reconstruction contemporaine. L'architecte en chef plaide pour une charpente en bois et une toiture en plomb. Anne-Sophie Balbière.
La flèche sera reconstruite à l'identique, la même que celle ajoutée au monument en 1859 par Eugène Viollet-le-Duc, de style gothique. Un choix qui satisfait Patrick Chauvet, le recteur de Notre-Dame de Paris.
J'ai toujours dit que je souhaitais qu'il n'y ait pas quelque chose de farfelu sur la cathédrale, parce qu'il faut respecter ce lieu, qui est un lieu cultuel avant tout. Je voulais aussi que ça fasse une unité dans l'ensemble de l'édifice.
Pas de flèche en verre donc, pas de parc jardin bio sur le toit, pas de terrasse panoramique. Une façon de gagner du temps pour la reconstruction, explique Catherine Tricot, architecte urbaniste.
Toutes les statues peuvent être restaurées, donc être remises en place dans le cadre de cette restauration à l'identique. Le deuxième aspect, c'est que ça évite d'avoir un concours international et on peut aller beaucoup plus vite.
Emmanuel Macron prévoit toujours une reconstruction en 5 ans avec une réouverture en 2024.
Jean Castex va poursuivre ses rencontres en fin de journée avec les partenaires sociaux qui, et c'est rare pour le souligner, sont tous d'accord sur deux priorités, l'emploi et la relance. Pas question de remettre sur la table pour le moment le dossier des retraites. Le Premier ministre qui se rend ce matin à Dijon avec son ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Une visite un mois après les affrontements survenus dans le quartier des Grésilles. D'ailleurs, hier soir, deux personnes ont été mises en examen et écrouées dans cette affaire pour violence en réunion. Gérald Darmanin, dont la nomination comme premier flic de France a fait naître un mouvement de protestation. Il est visé par une plainte pour viol à Paris, Nantes, Angers, Rennes ou encore quand les associations féministes appellent à son départ, un mouvement pris très au sérieux au sein de l'exécutif, Jérémy Trottin.
Des appels à manifester, des articles dans la presse internationale, l'exécutif ne cache pas son embarras et s'inquiète de voir son bilan contre les violences faites aux femmes anéanti par l'arrivée de Gérald Darmanin à l'intérieur. L'Élysée rappelle qu'en la matière, d'importantes mesures ont déjà été prises. Allongement de la prescription de 20 à 30 ans pour les crimes sexuels commis sur mineurs, bracelet d'éloignement pour les conjoints violents ou encore reconnaissance du suicide forcé. Preuve du malaise, le chef de l'État envisage un déplacement pour rappeler son soutien à l'égalité femmes-hommes, grande cause du quinquennat. Et si l'exécutif assure aujourd'hui son plein soutien à Gérald Darmanin, à Matignon, les choses sont claires. Si l'enquête révèle le moindre doute, c'est simple, il dégagera, affirme l'entourage du Premier ministre. En attendant, la sécurité aux abords du ministère de l'Intérieur a été renforcée pour éviter la venue d'éventuelles manifestantes.
Un troisième budget d'urgence a été adopté hier soir par l'Assemblée nationale. Il prévoit environ 45 millions d'euros supplémentaires pour aider le tourisme, l'automobile, l'aéronautique. Le texte doit maintenant être examiné par le Sénat. Parmi les amendements qui figurent dans le texte, on vous en parlait dès hier, la limitation d'achat des cigarettes dans les pays frontaliers avec la France. Une cartouche au lieu de 4 habituellement aujourd'hui. Les fumeurs sont forcément moins emballés que les buralistes français. Reportage à la frontière belge, Rémi Deremo et Marion Fournet.
Chez ces consommatrices de la région lilloise, habituées à se fournir en Belgique, l'amendement a du mal à passer.
Je trouve ça aberrant, même dégueulasse, parce que les petits citoyens, les petits salaires, les petits trucs qu'ils vont encore subir.
Quand vous pensez qu'une cartouche de cigarette en France, je paye 94 euros, ici en Belgique 68. Vous voyez la différence qu'il y a ?
Une différence qui irrite les buralistes français, eux qui avaient retrouvé le sourire pendant le confinement, quand les habitants de la région ne pouvaient plus se déplacer hors de l'Hexagone. Christophe Carpentier, président de la Fédération des buralistes lillois.
Il y a certains de mes collègues, de mes confrères, qui ont multiplié par 5 leurs chiffres tabac, donc c'est quand même très significatif. Et là, on redescend tout doucement et c'est reparti comme avant, quoi, tout simplement.
Évidemment, lui se réjouit de la restriction des achats de tabac à l'étranger.
Je comprends le français qui va en Belgique, au Luxembourg, parce que bon, quand vous payez deux fois moins cher votre paquet de cigarettes, je le comprends. Ce qui est sûr, c'est que pour nous, c'est pas logique, quoi. Donc à partir de ce moment-là, je pense que c'est une bonne chose.
Adopté hier soir à l'Assemblée nationale, le troisième budget d'urgence qui contient un amendement sur le tabac doit désormais être examiné par le Sénat.
Oui Céline, et tout à l'heure Olivier Véran sera mon invité, le ministre de la Santé et des Solidarités, la Santé, le tabac, je lui parlerai du prix des cigarettes et des différences entre les différents pays d'Europe.
Et fin de l'état d'urgence sanitaire ce soir à minuit, sauf en Guyane et à Mayotte. De possibles restrictions sont toujours possibles jusqu'à fin octobre, par exemple sur les déplacements ou les rassemblements. À Laval, en Mayenne, il n'y aura pas de festivités pour le 14 juillet. Toutes les manifestations publiques sont suspendues jusqu'au 27 juillet. La raison, la multiplication de cas de coronavirus. Le département va d'ailleurs lancer un dépistage massif à partir de lundi. Aux États-Unis, l'épidémie est toujours hors de contrôle. Nouveau record du nombre d'infections en 24 heures, 65 500 cas supplémentaires. Les États-Unis, où la Cour suprême a infligé un sérieux revers à Donald Trump, la justice est en droit de réclamer les archives comptables du président américain. Jean-Bernard Cadier, correspondant de RMC et BFM TV.
Donald Trump va devoir envoyer les détails de sa situation financière au procureur de New York. Celui-ci n'a pas le droit de les rendre publics, en tout cas pas avant la présidentielle de novembre. Alors pourquoi est-ce que Donald Trump est tellement en colère ? Sur Twitter, il dit que c'est injuste, que c'est une manœuvre politique de plus contre lui. Parce qu'il n'aime pas du tout que les juges new-yorkais mettent leur nez dans ses comptes. Selon son ancien avocat, ça fait des dizaines d'années que Trump maquillait ses comptes pour à la fois paraître plus riche qu'il n'est et payer moins d'impôts qu'il devrait. Son opposant à la présidentielle, Joe Biden, lui a répondu également sur Twitter « Monsieur le Président, faites comme moi, j'ai publié 21 ans de déclarations d'impôts ».
Il risque la peine de mort. Un Français de 65 ans a été arrêté en Indonésie fin juin. On l'a appris qu'hier, il est soupçonné d'abus sexuels sur plus de 300 mineurs. Le retraité aurait installé un studio photo dans sa chambre. Il faisait monter des jeunes filles en leur promettant de travailler comme modèle. RMC 6h07. Bien dormir la veille d'un long trajet ne suffit pas à lutter contre la somnolence au volant. Si vous mangez trop gras ou trop sucré, eh bien vous êtes presque sûr d'avoir le fameux coup de barre. Poisson, lentilles, kiwi au menu. Repas optimal pour ne pas piquer du nez. Et vous alors, que mangez-vous avant de prendre la route ? Reportage à Toulouse de Jean-Wilfried Forquès et Maxime Lévy.
Lorsqu'il part en vacances, Nourdine s'arrête régulièrement pour éviter la fatigue, mais il a une autre astuce, pas de repas copieux avant de prendre la route.
Je mange plutôt léger, voilà, je vais être tranquille, je mange une salade, je m'hydrate, c'est clair, mais j'évite de m'encombrer le ventre pendant le trajet.
De son côté, Denis fait tout le contraire, il ne veut pas que la faim le tiraille en plein milieu du trajet.
Mon plat de pâtes, un morceau de viande et un petit peu de légumes. Il vaut mieux prévoir un repas assez consistant quand même, histoire de pouvoir tenir la route si on a plusieurs bornes à faire. Ouais.
Surtout pas selon le nutritionniste Frédéric Salman. Afin d'éviter la somnolence, première cause de mortalité sur la route, il propose quelques conseils.
Les aliments comme les radis, des lentilles qui sont parfaits pour accompagner une volaille ou un poisson blanc. Et un petit peu d'acidité, de vitamines avec du kiwi. Ne vous gavez pas avant de prendre la route et là vous aurez tous vos réflexes pour éviter les accidents.
Et pour finir le repas, le médecin propose un carré de chocolat noir ou comment se faire plaisir tout en restant vigilant.
Il y a du monde hein, sur les routes aujourd'hui pour les départs en vacances. Drapeau orange partout, rouge en Île-de-France.
Bon, on va parler de tout cela. Que mangez-vous le matin, vous, Céline ?
Bah, le matin,
vous avez des habitudes
en pleine nuit.
En pleine nuit, bah oui, oui, on se lève tôt.
Avec
des céréales, voilà, des céréales. Charles, que mangez-vous, Charles? Toute l'équipe est réunie, mais que se passe-t-il ce matin? Je ne comprends pas.
Moi,
je
c'est
ne comprends
café
pas.
Cigarette, moi.
Comment?
Je dis la vérité.
Et vous, Anaïs?
Alors moi, je ne fume plus d'abord une semaine aujourd'hui.
Bravo.
Franchement,
c'est la vraie info de cette matinale.
Et je mange des petites madeleines.
Des petites madeleines. Et vous?
Moi, ce sont des fruits, mais surtout, ce qui intéresse les auditeurs, c'est vous. Vous mangez
moi, tous les matins, deux tartines beurrées que je beurre chez moi. je me lève, le beurre est sorti la veille. Il est bien, parce que pour tartiner le matin, s'il sort du frigidaire, c'est pas facile. Hein. Il est bien à bonne température et je tartine du pain frais que j'ai acheté la veille. Il est moins frais, mais bon. Et le matin, c'est un thé, puis du café qu'Anne Bingler, qui réalise cette matinale avec nous, qui est notre productrice depuis toujours. Ben, Cannes m'apporte le matin des cafés. 4-5 tous les matins.
Pas de café, hein.
Pas productrice des cafés. Même si on a notre machine à café et les capsules qui vont avec, on verra ça tout à l'heure avec Quentin Vinet. Bien, c'est une matinée très spéciale. Vous l'avez compris. Je voudrais pas. C'est très difficile parce que je peux pas dire, je ne vais pas m'attarder sur mon cas, puisque on va parler de moi, mais je voudrais parler de moi, de la radio en général, d'RMC, d'RTL si vous le souhaitez, avec tous nos auditeurs, toutes nos auditrices, toutes celles et ceux qui nous accompagnent depuis toujours, le matin. Vous savez que je pars en vacances aujourd'hui, mais bon, ça c'est pas le plus important. Nous ne serons plus ensemble à mon retour à 5h57, fin août, tant d'années avec vous, tant d'années à quoi, à vous écouter, à réfléchir ensemble, à partager votre vie, vos points de vue. Aujourd'hui, c'est vrai que tout se mélange, c'est vrai que les journalistes et le journalisme sont en pleine défiance. La défiance est immense, alors j'y pense souvent, mais plus que jamais, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vos interventions. Nous avons besoin de quoi? Eh bien, nous avons besoin de votre présence, de vos témoignages. Vous nous racontez votre vie. Nous avons besoin de vos avis. Le matin, vous nous racontez. Depuis toujours, je vous donne la parole. Eh bien, je vais continuer à le faire ce matin. Vous allez nous raconter vos souvenirs communs, nos souvenirs communs. Comment avez-vous découvert RMC? Comment avez-vous découvert peut-être RTL? En votre nom, je continuerai. C'est promis, mais je continuerai à poser des questions à qui, aux responsables politiques. Et je voulais donc, à travers cette matinée, saluer votre fidélité sans faille. Il y a l'équipe, Anne Bingler, qui m'accompagne depuis toujours. François Richer, que je ne veux vraiment pas oublier, parce qu'il est là avec moi depuis le début, à Monaco. François qui réalise cette matinale. Je sais combien François est ému, autant que moi, ce matin. Je voudrais aussi dire que ces années n'auraient pas été réussies sans le dynamisme de ma femme, et je tenais à lui rendre hommage, Anne, que j'ai rencontrée ici, et ça c'est assez extraordinaire, je l'ai rencontrée ici en 2004, son exigence et ses critiques constructives m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé, beaucoup apporté, voilà. Et puis voilà, on va parler de plein de souvenirs, on va évoquer plein de souvenirs, mais Charlemagne est impatient, je le sens, parce que ça fait combien de temps que nous sommes ensemble?
Trop longtemps.
Comment trop longtemps?
Ça fait 13 ans maintenant, que nous sommes ensemble, comment vous dire. Jean-Jacques m'a connu les cheveux courts, si ça vous donne une idée de la longévité de notre relation. Mais ce matin, Jean-Jacques, vous allez recevoir beaucoup de témoignages d'affection, des hommages en tout genre. Et pour commencer, on tenait à écouter ceux qu'on appelle entre nous les anciens, celles et ceux qui ont travaillé avec vous le matin sur RMC, sur Bourdin & Co, puis sur Bourdin Direct. Ils ont tous beaucoup appris à vos côtés. Alors je vous propose de les écouter.
Bonjour, c'est Mathieu Béliard. Moi, j'ai travaillé 10 ans avec Jean-Jacques. J'ai énormément appris, j'ai tout appris en ces 10 années à ses côtés, à le voir faire, mais pas seulement à le voir faire dans là où on l'attend, c'est-à-dire dans l'interview, mais à le voir faire sur le fonctionnement humain d'une équipe, comment il résiste parfois à des choses qu'on voudrait lui faire faire et qu'il n'a pas envie de faire. J'ai eu la chance d'être pendant 10 ans assis à côté de lui et surtout de commencer par rapport aux auditeurs. Moi, je faisais l'interface entre Jean-Jacques et le standard, et c'est quand même là la colonne vertébrale de Jean-Jacques, sa capacité qu'il a à échanger, à écouter, à interroger, à aller dans le fond des choses avec les auditeurs. Et en étant cette voix-là, forcément, c'était une place précieuse que la mienne.
Bonjour, c'est Chloé Cambrelin. J'ai travaillé 4 ans avec Jean-Jacques. Je crois que j'ai appris à être davantage curieux des autres, curieux de ce qu'on ne connaît pas. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à développer et dont peut-être j'ai mesuré la valeur et l'importance au cours de ces années.
Bonjour, je m'appelle Philippe Dufresne et j'ai travaillé 8 ans avec Jean-Jacques Bourdin. Bah, le 15 juin, c'est l'anniversaire de Johnny Hallyday, puis c'est aussi l'anniversaire de Jean-Jacques Bourdin. Alors, je prépare mon petit gâteau, j'arrive en studio, je mets les bougies, Jean-Jacques souffle, il y a beaucoup de fumée. Et puis, bon, voilà, ça se passe, je descends en bas, et qu'est-ce qui se passe? Je vois des camions de pompiers qui sont en train d'arriver à toute vitesse, à toute allure. En fait, il y a une alarme incendie qui s'était déclenchée en studio, et les pompiers étaient venus pour le gâteau d'anniversaire de Jean-Jacques.
Bonjour, moi c'est Hugo Perrier, j'ai travaillé pendant 6 années avec monsieur Jean-Jacques Bourdin. J'ai un petit souvenir qui me revient souvent, c'est ses conférences de rédaction du matin, quand Jean-Jacques arrive avec sa pomme et sa petite bouteille d'évian et qu'on est supposé parler du programme de la matinale. Mais qu'avant de parler de tout ça, on va parler des matchs de Ligue des Champions de la veille pendant 30 minutes avant de rentrer dans la matinale et de se dire « Oh mince, il ne nous reste plus que 5 minutes pour parler du programme » alors qu'on a parlé de la prestation de l'ailier gauche du Paris Saint-Germain pendant 15 minutes. Et ça, je m'en souviens, ça me fait toujours rigoler quand j'y pense.
Je m'appelle François-Xavier Ménage et j'ai été reporter pour Jean-Jacques Bourdin pendant 4 ans. La première anecdote qui me vient, c'est mon premier direct avec Jean-Jacques. Je suis encore étudiant en école de journalisme. Il est 7h15 le matin, je rentre en studio et tout le monde me dit « Si Jean-Jacques tape pas du poing sur la table pendant ton direct, c'est qu'il aime pas. » Et donc, je passe mon temps pas à regarder les feuilles que j'ai dans les mains, mais à regarder ses mains. Et à la toute fin, mais vraiment à la toute fin du direct, voilà, ça m'est resté. Jean-Jacques, il m'a toujours dit, le plus important, c'est pas la voix. Alors c'est facile, lui, évidemment, il a la voix qu'on rêverait tous d'avoir quand on commence en radio. Moi, j'ai jamais eu cette voix. Non, ce que Jean-Jacques me disait, le plus important, c'est d'avoir des tripes. Si t'as des tripes sur le terrain, t'auras des tripes en studio. Et je dois avouer que ce conseil, je l'ai toujours en tête, en permanence. Et ça s'apprend pas dans les écoles de journalisme d'avoir des tripes. Donc Jean-Jacques, je pense beaucoup à tes tripes aujourd'hui. Ça fait bizarre à dire, mais la vérité est là.
Bonjour, c'est Nicolas Grébert et j'ai travaillé 14 ans aux côtés de Jean-Jacques. Et moi, je me souviendrai du premier jour où j'ai rencontré Jean-Jacques, c'est-à-dire en juin 2001. C'était à Monaco au tout début et j'ai entendu une grosse voix dans la rédaction. Et moi, j'ai tout de suite reconnu Jean-Jacques Bourdin. Ça m'a impressionné, j'étais trop content. Et puis après, j'ai été dans ses baskets pendant 14 ans, j'ai beaucoup progressé à ses côtés. Puis on a eu la chance de vivre une histoire radiophonique unique.
Je m'appelle Marie Boulle, j'ai travaillé 5 ans avec Jean-Jacques. Jean-Jacques, c'est le contraire d'un journaliste blasé et cynique. C'était impressionnant de le voir s'allumer comme ça sur des sujets encore et encore, jamais blasé. Et je pense que peu de gens savent que Jean-Jacques a beaucoup d'autodérision et c'est quelqu'un qui sait prendre les critiques. D'ailleurs, j'aimais le vouvoyer pour pouvoir dire quand c'était nécessaire « Jean-Jacques, vous me faites chier ». Je trouvais que ça sonnait très bien et généralement ça le faisait rire. En bref, pour sortir les violons, Jean-Jacques a changé ma vie. Ça peut paraître exagéré, mais c'est vrai. Je suis journaliste grâce à lui. Il m'a donné ma chance alors que j'avais pas fait d'école, ce qui est pas commun dans le milieu. C'était vraiment un luxe d'apprendre et de travailler à tes côtés, Jean-Jacques. Tu me manques beaucoup et merci pour tout.
Dis-moi, qu'est-ce que... Non, je sais plus trop que dire. Hein.
Après, eh ben d'abord, on va remercier Marie Régnier. Ouais. Elle aussi, une ancienne à sa manière, qui m'a aidé à recueillir tous ces témoignages d'anciens ce matin, qui tenaient tous ce matin à être avec vous.
C'est un tel plaisir. Il y en a tellement. Je reçois tellement de messages. Mais je dis toujours, c'est ce qui me fait le plus plaisir, transmettre. Parce qu'on est là pour transmettre ce qu'on sait, ce que j'ai appris. Moi non plus, je n'ai pas fait d'école de journalisme. Moi, j'ai commencé sur comme ça, par hasard. J'ai fait du journalisme par hasard, grâce à Raymond Castan, il y a bien longtemps, qui un jour a pensé que je pouvais parler de sport, et je suis arrivé à RTL, je ne connaissais pas, et j'ai commencé à travailler. Je n'avais jamais fait de journalisme de ma vie, j'ai commencé comme ça, et puis après, au fil du temps, j'ai changé, mais voilà, et la transmission, c'est absolument essentiel. Bien, je vais prendre Corentin, parce que les auditeurs sont prioritaires. Corentin! Corentin, bon, ça commence. J'ai l'habitude, hein, ça fait quand même longtemps. Hein, j'ai l'habitude d'avoir des problèmes avec mes auditeurs. Hein. Bon, on va prendre Liberté alors, qui est à Carry-le-Rouet, dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Liberté.
Bonjour. Bonjour
merci.
Monsieur Bourdin.
Merci d'être avec nous, Liberté.
Je voulais vous témoigner pour toutes ces années que vous nous avez apportées.
Oui.
Et je pense que si vous vous rappelez, vous avez fait votre première émission, c'était il y a 19 ans, je suis un petit peu émue, excusez-moi.
Non, mais Liberté, c'est normal.
C'était sur des sapeurs-pompiers ou des marins-pompiers, dont un avait eu une main arrachée. Et à l'époque, sur RMC, on téléphonait la veille pour un sujet qui nous intéressait. Et j'ai été surprise le lendemain quand on m'a appelé que ça avait changé. Et c'est là que je vous ai découvert et que je vous ai pu quitter.
Voilà. Merci Liberté. Voilà. Vous n'avez plus. Oui. Allez-y Liberté. Puis après je vais prendre Corentin. Allez-y.
Oui, je voulais vous dire aussi que j'ai découvert Anoniva quand elle faisait ses reportages en Irak, et j'ai trouvé un reporter de guerre exceptionnel parce que c'était à la portée de tout le monde, comme expliqué. Et je tenais quand même à vous le dire parce que je sais que ça vous fera plaisir.
Oui, ça me fait d'autant plus plaisir que je l'ai rencontrée alors qu'elle était sur des terrains de guerre, puisqu'elle était de passage à Paris à l'occasion de la sortie de l'un de ses livres. Et c'est comme ça, je l'ai interviewée ici. J'en parlerai tout à l'heure à 8h10. Je l'ai interviewée ici parce que c'est aussi l'histoire d'une rencontre. Il y a la rencontre professionnelle et j'ai une rencontre familiale. Et de là est né un garçon. Enfin bon, voilà, c'est un enchaînement. Merci Liberté. Merci.
Vous allez nous manquer.
Moi aussi, vous allez me manquer. Liberté.
Merci beaucoup.
Liberté, vous savez, je vais peut-être vous manquer, mais alors vous allez me manquer d'une manière... Vous n'imaginez même pas. Corentin. Je retrouve Corentin à Mourinx, dans les Pyrénées-Atlantiques. Ah, mon Corentin. Comment ça va, Corentin?
Bonjour Jean-Jacques, ça va?
Eh bien, ça va, Corentin. Ça me fait plaisir.
Ça fait plaisir de vous avoir.
Ben, moi aussi, Corentin. Comment avez-vous découvert RMC?
Depuis longtemps, c'est mes parents à l'époque. Ils écoutaient le soir, ils écoutaient dans la voiture les matchs de foot.
Oui.
Évidemment, bon, ils changeaient pas de radio le matin, donc quand ils m'amenaient à l'école, je vous écoutais le matin, voilà.
Bon, c'est vrai.
Et ouais. Et donc, bon, au début, moi, j'aimais pas trop parce que vous savez, quand on est jeune, on aime bien écouter la musique et tout ça. Et puis, en fait, au fur et à mesure, j'ai appris à vous connaître et à aimer ce que vous faisiez. Donc voilà quoi. C'était vraiment des moments uniques à partager. Voilà.
Bon, ben merci beaucoup Corentin. Merci
surtout,
vraiment.
Bonne continuation Jean-Jacques.
Oui, voilà. Non, mais je suis là à la rentrée. Ouais, n'oubliez pas que 8h30, 9h, ce sera l'interview politique. Et vous savez que la présidentielle s'annonce bientôt et que ça va être chaud. Donc je serai là.
Tout à fait, bien sûr. J'aimerais que vous posiez une question aux politiques. C'est par rapport au projet ITER. Voilà, tout simplement. J'aimerais que vous leur posiez cette question parce qu'on n'entend pas parler et c'est notre avenir énergétique. Voilà.
Merci beaucoup. Merci, Corentin. Je vois des photos derrière. Non, il faut les cacher.
C'était la mode à l'époque.
Il y a un petit air de Francis Cabrel, je trouve.
Ah bon, d'accord. Ben, bon, ça commence. Merci Anaïs. Il y a Déborah aussi. Vous savez que Déborah, on fera venir Anne, Déborah tout à l'heure à l'antenne. Déborah qui prépare cette matinale. Et ce matin, n'a pas eu beaucoup de boulot. Hein. Non, mais c'est vrai. Non, mais Déborah Veil qui prépare cette matinée dans la journée, qui cale tous ses invités, qui trouve tout le monde qui est formidable, vraiment formidable, et à qui je souhaite un bel avenir. Il est 6h22, on fait de la pub, mais il faut faire de la pub quand même. 6h22, un peu de pub, à tout de suite.
RMC, 6h-9h,
Bourdin Direct.
Allez, il est 6h25, c'est Anaïs Castagna qui veut prendre la parole, Anaïs.
Oui, parce que ce matin, il y a les auditeurs qui vous appellent au 32-16, puis il y a également des petits messages enregistrés par des auditeurs que vous avez eus très souvent à l'antenne, des auditeurs qui font partie de l'équipe. Au final, je pense notamment à Catherine, à Geoffroy, à Amandine. Ils ont voulu vous envoyer un petit message.
Bon, salut Jean-Jacques. Écoute, excuse-moi si je te tutoie d'emblée, mais tu sais, 15 ans à me réveiller à tes côtés tous les matins, ça crée des liens. Tu sais, ce fameux lien dont tu parles souvent et que tu as su tisser depuis Les Auditeurs ont la parole jusqu'à Bourdin Direct, donc ce lien-là, mais aussi, tu sais, ce lien entre toi et nous, mais le lien aussi dans les familles. Moi, je me souviens, on t'a découvert un matin d'automne où j'allais aux champignons avec mon père dans ma campagne, dans ma Bretagne profonde, et on est tombé sur RMC, on est tombé sur toi, sur ta liberté de ton. Et puis bon, voilà, où est mon père? Je crois qu'il n'y a pas la radio. Mais tous les matins, quand tu prends l'antenne, avant c'était 6h08 et maintenant c'est 5h57, j'avais l'impression qu'il était là avec nous. Donc c'est pour ça, je te remercie. Et donc, écoute, je te souhaite le meilleur pour la suite. Bon vent et Kenavo.
Salut Jean-Jacques, c'est juste pour vous dire un petit au revoir. Et puis heureusement que vous avez toujours l'émission politique. Vous allez bien nous manquer sur le siège passager. Allez, ciao.
Monsieur Bourdin, je vous écoute depuis mes 18 ans, bientôt 10 ans maintenant. Votre liberté de ton et la liberté de parole surtout que vous offrez aux auditeurs, vous êtes toujours distingué des autres journalistes. Bonne continuation à vous, vous allez nous manquer.
Depuis 18 mais ans, oui. C'est beau.
Ça fait plaisir. Hein.
C'est 18 ans.
Vous vous rendez compte? Ça fait plaisir. Racontez-nous un peu comment... Oui, en plus, ces trois auditeurs, je les connais.
Bah
on se connaît. J'en connais tant. Je vois Maryse à Tours. Je vois Christian, par exemple. Christian à Saint-Rome de Cernan, qui nous écoute depuis si longtemps. C'est dans l'Aveyron, hein, Saint-Rome de Cernan. Charlemagne, vous vouliez...
Bah oui, qu'est-ce que vous vouliez faire? J'aimerais dire qu'en 19 ans, on est passé des choses sur RMC. On va parler des invités, des témoignages, des débats, des coups de gueule, des coups de cœur. Mais aussi, il faut le dire... Qu'est-ce qu'on s'est marré? On en a eu un paquet et des fous rires autour de cette table. Le plus drôle, évidemment, ce sont les fous rires qu'on ne voit pas venir. Comme ce jour où Anaïs Castagna s'est un peu emballée pour une histoire de biscuit.
Et puis un petit beurre avec le café, un pépito trempé dans le chocolat chaud, un biscuit de Reims pour accompagner une petite coupe de champagne. C'est bon les biscuits, mais les Français en mangent de moins en moins pour faire attention à leur ligne, mais aussi parce que...
Parce que
le goûter perd du terrain, on mange moins.
Bon, allez, nous verrons
ça. Mais on privilégie la qualité. Bon. On n'hésite pas à payer un peu plus pour un petit plaisir sucré.
D'accord. Victor Joannin à 7h20 pour tout savoir sur les biscuits. Mais on peut parler de tout.
Et oui, le goûter perd du terrain.
On va parler de tout.
Des grandes phrases d'Anaïs. Ouais. Et les petits plaisirs sucrés, c'est important.
C'est important. Bien, vous continuez. Je vais prendre Christian tout à l'heure, évidemment. Quentin Vinet est aussi là avec nous. Nous aurons beaucoup de rendez-vous ce matin. Je ne sais pas que dire. Encore une fois, merci. Allez, je ne vais pas... Allez, Géraldine, ce n'est pas la meilleure matinée que je suis en train de faire. Je le dis tout de suite. Enfin, oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Ah oui, la machine à café. Oui, même le dernier jour, j'oublie la machine à café.
Il en reste
mais
une
je suis tellement ému là, que j'oublie même la machine à café. Allez, la machine à café, les capsules qui vont avec. Quentin.
Et le mot matin par SMS au 732-16.
Bravo, Quentin. Géraldine.
Il va faire beau pour le week-end du 14 juillet. Je pense que c'est ce qu'on va retenir, notamment dans le Gard. Enfin bon, il fait souvent beau dans le Gard,
oui,
donc ça change pas beaucoup.
Sûr, oui.
Pour aujourd'hui, en revanche, on va avoir un temps un peu plus perturbé. On a pas mal de nuages, des petites pluies faibles qui vont traverser le pays. Cet après-midi, on va avoir des orages qui seront parfois violents sur l'Auvergne-Rhône-Alpes avec de la grêle. Le soleil va résister sur la Côte d'Azur et la Corse. Et puis on va retrouver de plus en plus d'éclaircies aussi sur le Nord-Ouest, entre la Bretagne, Pays de la Loire, le Centre, la Normandie, l'Île-de-France, jusqu'au Nord-Pas-de-Calais. Pour les températures, elles vont bien baisser cet après-midi. 20 degrés à Lille, 23 à Paris, 24 à Bordeaux, mais on ira quand même jusqu'à 36 au Vigan.
Julien Coudreau est là pour les dernières informations. Il est 6h30, je suis à l'heure, c'est assez exceptionnel, mais il est 6h30. Julien, les infos, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. 180 euros de plus par mois pour les personnels hospitaliers. Les syndicats ont le week-end pour signer le projet d'accord du Ségur de la Santé. Mais qu'en disent les principaux concernés? Nous leur avons posé la question. Elles avaient mis leur angoisse entre parenthèses, Les familles précaires, à nouveau menacées d'expulsion par la fin de la trêve hivernale prolongée de 3 mois par l'état d'urgence sanitaire qui s'achève ce soir. Et puis sans public mais pas sans ambition, tirage ce midi du tableau final de Ligue des Champions. Lyon et le PSG vont connaître leurs adversaires potentiels pour la fin de la compétition. 180 euros net en plus par mois, c'est donc la dernière offre du gouvernement aux soignants. Un projet d'accord est sur la table depuis hier. Il prévoit une augmentation des salaires en 2 temps des personnels hospitaliers hors médecins, mais aussi 15 000 embauches. Les syndicats ont jusqu'à lundi pour se prononcer, mais qu'en pensent les principaux concernés? Caroline Philippe leur a posé la question à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière pour RMC.
D'abord infirmière, Céline est devenue cadre de santé à l'hôpital. Aujourd'hui, elle reconnaît un effort de la part du gouvernement.
180 euros par personne sur toute la France qui travaille dans le milieu hospitalier, c'est énorme, c'est des sommes énormes. Pour moi, c'est un début. Il va falloir continuer.
Continuer pour rattraper le gel des salaires depuis des décennies et pour revaloriser ces métiers, c'est essentiel aux yeux de Rémi, agent hospitalier.
C'est pas avec 90 euros dans 2 mois et 90 euros au mois de mars qu'on va dire aux jeunes, venez travailler à l'hôpital public. Mais je dirais même plus, qu'on va faire revenir ceux qui sont partis. Enfin, moi, je prends ça vraiment comme une carotte. On vous donne un petit peu, on arrête les manifestations, etc. Si le gouvernement croit ça, il se trompe.
Maintenir la pression et surtout poursuivre les échanges, voilà l'objectif de Patrick Bourdillon, secrétaire fédéral CGT Santé.
Derrière, nous, c'est parce que le Ségur de la Santé est terminé qu'on ne souhaite pas ne pas discuter avec le gouvernement. On demande toujours l'ouverture de négociations sur beaucoup de sujets, sur beaucoup de thématiques, donc il faut que les discussions aient lieu. Sur la gouvernance hospitalière, sur le financement des hôpitaux, etc.
Les syndicats sont tout aussi sceptiques sur l'autre volet de ce protocole d'accord, la promesse de 15 000 embauches.
est toujours pas d'accord à ce stade avec les médecins qui font l'objet de négociations séparées. Hier, 25 urgentistes du CHU de Toulouse ont annoncé leur démission, excédés, disent-ils, par le manque de moyens pour les services d'urgence. Jean-Jacques, le ministre de la Santé.
Exactement, Olivier Véran sera mon invité tout à l'heure, 8h35, sur RMC BFM TV.
Voilà, il n'y aura finalement pas de geste architectural contemporain. 15 mois après l'incendie de Notre-Dame de Paris, Emmanuel Macron a tranché. La cathédrale sera reconstruite à l'identique. Le président qui prévoit toujours une restauration en 5 ans avec une réouverture prévue en 2024. Deux personnes supplémentaires mises en examen et placées en détention provisoire dans l'enquête sur les violences urbaines entre communautés tchétchènes et maghrébines à Dijon. Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sont attendus ce matin dans le quartier des Grésilles, touché par ces affrontements le mois dernier. Habitants, forces de l'ordre et élus attendent tous beaucoup de cette visite, Marion Fourlet.
Terminé les scènes d'affrontement à Dijon, un mois après les violences, le calme est revenu, selon Anis, un habitant du quartier des Grésilles.
Ça s'est calmé et là, tout le monde, les habitants, ils sont contents. Tout le monde qui vit normalement.
Les forces de l'ordre restent tout de même vigilantes. Elles espèrent maintenant des annonces de la part de Jean Castex et du ministre de l'Intérieur. Christophe Fernandez, secrétaire régional du syndicat SGP Police.
On attend des effectifs pour Dijon. On l'avait sollicité la dernière fois, Laurent Nunez, dans le cadre de l'affaire des Grésilles, vous l'aurez noté. 30 effectifs au bas mot qui peuvent nous manquer pour effectivement bien fonctionner là aussi.
Des effectifs de police insuffisants. François Rebsamen, le maire de Dijon, compte bien en parler à Jean Castex.
Il faut qu'il y ait une organisation qui prennent en compte les demandes territoriales au niveau national. Toujours cette organisation très centralisée de notre pays, qui fait que quand un préfet demande des renforts de police, il ne les obtient pas forcément parce que Paris d'abord.
Au total, 11 personnes ont pour le moment été condamnées dans le cadre de l'enquête sur les violences survenues dans la ville.
À l'étranger, l'épidémie de coronavirus continue sa progression aux États-Unis. Plus de 3 millions de cas désormais recensés, dont 65 000 infections supplémentaires en 24 heures. Un nouveau record. En France, les députés ont adopté un troisième budget de crise qui prévoit environ 45 milliards d'euros supplémentaires. Nouvelle rallonge pour secourir les secteurs du tourisme, de l'automobile et de l'aéronautique. Le texte doit maintenant être examiné au Sénat. Ce vendredi, c'est aussi la fin de l'état d'urgence sanitaire et donc des mesures exceptionnelles mise en place dans le cadre de cette épidémie de coronavirus. La fin de la trêve hivernale, par exemple, qui avait été repoussée. Les expulsions locatives vont pouvoir reprendre et pour certains, il va falloir réapprendre à vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, Margot Bédé.
La porte est ouverte.
Ça fait 2 ans que Tamoura se bat pour rester chez elle. Après la mort de son mari, cette mère de famille reçoit un avis d'expulsion. Le bail est arrivé à sa fin. Le propriétaire veut récupérer son logement. Aujourd'hui, elle est démunie.
C'est le stress permanent. J'ai pas eu le temps de réaliser déjà que mon mari n'est plus là. J'ai pas le droit de pleurer maintenant. Il faut y aller parce que ça va être la rue.
Si elle ne craque pas devant ses enfants, son fils aîné de 13 ans, Séji, est bien conscient de la situation.
Quand on se dit que d'un jour ou l'autre, à partir de samedi, on pourra finir à la rue, on veut juste que ça s'arrête et qu'on reprenne une vie normale comme avant. C'est même pas si on aura une autre maison après.
Hier, la ministre déléguée au logement, Emmanuelle Wargon, a réaffirmé les engagements du gouvernement pour qu'il n'y ait aucune expulsion sans possibilité de relogement. Jean-Baptiste Hérault, porte-parole de l'association Droit au Logement, ne crie pas victoire pour autant.
On va voir des samedis... Quelle est la réaction des préfets sur cette question-là? Il faut interdire les expulsions s'il n'y a pas une solution immédiate de relogement et pas un hébergement dans un hôtel, hein, parce que bon, ça c'est inadmissible.
Dans le contexte de la crise sanitaire, l'association réclame une année blanche des expulsions et des coupures d'énergie.
Il est 6h36 sur RMC. Il n'y aura pas de spectateurs pour assister au tournoi final de la Ligue des Champions. Les matchs auront lieu à huis clos à Lisbonne du 12 au 23 août prochain. Formule inédite avec des quarts et des demi-finales disputées sur un seul match. Morgan Mori, le PSG et Lyon seront d'ailleurs fixés aujourd'hui puisque le tirage au sort des affiches a lieu ce midi.
Entrée, plat, dessert, 3 matchs pour gagner la première Ligue des Champions de son histoire. Un chemin simple mais tortueux attend le Paris Saint-Germain pour cette phase finale. Neymar et ses coéquipiers peuvent tomber sur l'Atalanta Bergame, équipe surprise avec son attaque flamboyante. Sur les Allemands de Leipzig, coaché par Julian Nagelsmann, 32 ans seulement mais un génie de la tactique. Ou encore l'Atlético de Madrid avec sa grinta étouffante. D'autres gros poissons comme le Bayern Munich, le Real Madrid ou Manchester City peuvent tomber sur les Parisiens à condition qu'ils remportent leur 8e de finale en retard placé au début début du mois d'août. Même scénario pour Lyon, les Lyonnais doivent sortir la Juventus Turin pour arriver à Lisbonne, lieu de ce Final 8. À la différence de leurs rivaux européens, les clubs français n'ont pas encore repris la compétition. Dans cette formule particulière, chaque détail peut avoir son importance.
Morgan Maury, verdict donc ce midi. Les courses et le quintet à Cabourg aujourd'hui, Anaïs.
20h15, le favori, la favorite, c'est numéro 1, Caïd de l'Aprel. Outsider, numéro 9, Dimo d'Ocagne.
Bien, merci. Si vous avez des questions à poser sur le journalisme, sur notre métier, sur la manière dont on construit une matinée radio, n'hésitez pas. C'est vrai que le travail s'effectue déjà en amont. De la matinée. Toutes les équipes travaillent, la rédaction, les équipes qui travaillent pour la matinée. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne, vous nous le demandez. Si vous voulez qu'on parle de journalisme, n'hésitez pas, profitez-en, parce que ça sera la dernière fois pour moi que je pourrai en parler comme ça directement avec vous et que je serai avec vous. Il est 6h38. Tiens, Quentin Vinet, vous avez un dictionnaire entre les mains. C'est
et vous demandez pourquoi ?
Oui,
parce que vous êtes très attaché à la langue française,
oui,
Jean-Jacques. Très attaché. Et il y a des choses qui vous agacent, d'ailleurs.
Oui.
Et tous les jours, vous nous embêtez, on peut le dire, hein, ce matin aux auditeurs. Vous détestez les doubles sujets. Par exemple, quand on dit Jean-Jacques, il va partir en vacances. Non, on ne dit pas. Ça, c'est pas possible, ça ne sert à rien. Vous n'aimez pas les mots qui servent à rien. Vous n'aimez pas les tics de langage. On ne commence pas une phrase par « alors ». On ne dit pas « du coup ». Non, on ne dit pas « du coup ». Et surtout, vous détestez quand vos interlocuteurs terminent leur phrase par « d'accord ».
Ah oui, ça je dois dire.
Écoutez, je vais me répéter alors, 10 fois, puis je vais me lever et m'en aller. Donc vous écoutez ce que je vous dis, d'accord ?
Ce serait une erreur.
Vous n'aimez pas ça, d'accord ? Non, ça c'est pas possible.
Je n'aime pas le d'accord.
Les fautes de français, c'est
parce que quand quelqu'un ponctue sa phrase par un d'accord, vous ne, ça veut dire tais-toi. Ça veut dire que tu n'as plus rien à dire. D'accord. Mais non, mais moi j'ai pas envie qu'on me dise ça. Je vous le dis tout de suite. Moi j'ai toujours quelque chose à dire et surtout une question à poser.
On ne dit pas des fois, hein, on dit parfois, on amène des gens et on apporte des choses, ça aussi vous faites très attention, on évite toutes les évidences, ça s'est avéré juste, au jour d'aujourd'hui, oui aussi, on oublie les expressions toutes faites comme droit dans ses bottes, hein, et puis les mots ont un sens, Jean-Jacques, les mots ont un sens et surtout on fait très attention à la géographie, parce que vous connaissez la France par cœur grâce aux auditeurs.
C'est vrai. Brian est avec nous à Saint-Étienne, dans la Loire. Bonjour Brian. Clarisse est à la Clambrie, c'est dans le Val-de-Marne. Bonjour Clarisse. Florian est à Anglet, dans les Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Florian. Roland est à Rouen, il attend depuis un moment. C'est en Loire-Atlantique. Rouen, c'est pas le Rouen. En Normandie, c'est le Rouen en Loire-Atlantique. On dit Rouen ou Rouence, Roland ?
Non, mais c'est très important parce qu'on ne se trompe pas sur la prononciation, attention.
Rouence, oui, c'est vrai. Vous avez raison, Quentin, c'est Rouence en Loire-Atlantique.
Dimanche soir, nous sommes du côté du Caillard, en Petite Camargue.
Non, le Quélard.
Petite Camargue, dans le Gard. Les automobilistes. Caillard.
Non, mais vraiment.
Pardon, je m'excuse auprès de toute la communauté gardoise. Ça c'est double faute.
C'est dans le Gard. Non, mais le Caillard.
N'importe quoi.
C'est vrai que la géographie, je l'ai apprise grâce au Tour de France. Et grâce au Tour de France, cycliste, j'en ai fait 6. Et grâce au foot. Ben oui, j'étais journaliste sportif et puis dès l'âge de 12 ans, je lisais l'équipe tous les matins. Mais vrai, et je continue d'ailleurs de lire l'équipe tous les jours, demander à Anne, je lui demande tous les matins de me sortir l'équipe évidemment sur internet et puis voilà, et je lis l'équipe tous les matins et grâce à l'équipe, grâce au foot, grâce au sport en général, j'ai vraiment appris la géographie française qui me passionne d'ailleurs. Si nous prenions des auditeurs, allez, avec qui ? Avec Laurent, allez, on va... Laurent, à Sainte-Cécile-les-Vignes, dans le Vaucluse, fidèle parmi les fidèles. Bonjour Laurent.
Bonjour Jean-Jacques.
Oh Laurent, ça me fait plaisir. Hein.
Moi aussi, tu sais quoi pour la dernière, Jean-Jacques, je vais te tutoyer.
Ah ben mais non, mais tu as raison Laurent, tutoie-moi.
Oh vas-y. Jean-Jacques, comment tu vas nous manquer ?
Ben écoute...
Comme je voulais envoyer sur le petit message à Catherine ce matin, RMC sans Jean-Jacques, c'est Marseille sans la bonne mère et le Gard sans le Montégoal.
Merci Laurent pour le Gard et l'Égoal. Hein.
T'as vu, je faillote un peu. Hein.
Oui, et je vois.
Franchement, depuis la semaine, je réfléchissais et je ne me rappelle plus depuis combien de temps je t'écoute.
Oui.
Tellement, on a l'impression que tu fais partie de la famille, du boulot, le matin à 5h, il y a d'abord l'équipe, après tu débarques. Et comme vous avez passé les extraits, voilà, les moments de rigolade, les interviews politiques, tu me malmenais un peu tout le monde.
On en a fait.
Ce que je voulais te dire, c'est que,
dis-moi.
Pour moi, ta voix, elle fait partie du domaine radio français, comme les grandes voix qu'on a eues, les Zitron, les Foucault, les Ali Assouli, les Sacomano, et dans ce répertoire.
Eh bien, merci, Laurent, ça me fait plaisir.
Donc, si un jour tu passes à Sainte-Cécile, écoute, quand tu veux,
ben, évidemment.
On va déguster quelques bonnes bouteilles.
Et on fera une partie de pétanque.
Eh bien, bien sûr. Eh oui, tu te rappelles l'année dernière, quelque chose, c'était vu à l'Île-sur-Sorgue.
Il faisait une chaleur, d'ailleurs.
Il faisait
40. Tu te souviens.
Une chaleur à mourir.
À mourir. Bon.
Et puis voilà.
Bon, écoute, merci, bon Laurent. Bon. Et merci vraiment. Hein. Merci.
Allez,
à toi. Salut,
Jacques.
Laurent. Ah, je vais prendre Marie-Ève. Fidèle parmi les fidèles, Marie-Ève en Irlande. Et Christian et Maryse. Allez, à tout de suite, 6h42.
RMC, 6h-9h.
Bourdin Direct.
Il est 6h46. Allez, Marie-Ève. Ah, Marie-Ève.
Bonjour,
Marie-Ève. L'Irlande, Cork. Vous savez que, vous savez, je vais vous raconter une histoire très vite, très rapide, hein, sur l'Irlande. L'Irlande, j'adore ce pays. J'étais jeune journaliste sportif. Je couvrais un match de football de l'équipe de France, c'était à Dublin. Et puis ensuite, il y avait un match, c'était à Belfast, en Irlande du Nord. Il y avait un match de l'équipe de France de rugby de football à Belfast. Je m'y perds. Et un match de rugby ensuite à Dublin, 15 jours après. Pendant les 15 jours, je suis resté en Irlande avec mon ami Patrick Mahé, ancien grand journaliste qui a dirigé Paris Match, par exemple. Eh bien, avec Patrick, nous avons loué une voiture et nous sommes partis visiter l'Irlande. Nous avons roulé et nous nous sommes arrêtés à Cork. C'est là que j'ai découvert la bière de Cork. Elle est bonne, hein, la bière de Cork, je peux vous le dire. Et puis, j'ai adoré l'Irlande. Marie-Ève.
Je suis très émue ce matin, Jean-Jacques. Et je suis ravie d'être à l'antenne avec vous. Vous savez quelle place vous occupez, vous et votre équipe et votre émission, dans ma vie d'expatrié.
Oui.
Depuis 8 ans. Et je voulais simplement vous embrasser et vous souhaiter beaucoup de bonheur pour la suite. Vous dire à quel point votre journalisme et votre professionnalisme ont changé la vie de beaucoup d'auditrices et d'auditeurs comme moi. Et que mon réveil le matin ne sera plus jamais le même, puisque comme beaucoup de femmes, je me réveille avec vous tous les matins. Et ce sera plus pareil à la rentrée. Et je voulais juste dire un immense merci aussi à votre équipe, qui, je sais, vous rendra tous les honneurs ce matin. Vous travaillez avec des gens formidables.
Oui, ça c'est vrai.
Je voudrais faire
c'est
un gros bisou à Catherine, que j'aime beaucoup, qui est au standard, et puis à Anne. Les deux femmes les plus importantes de votre vie portent le même prénom, alors c'est toujours compliqué, j'imagine. Mais voilà, j'embrasse
de ma vie professionnelle et de ma vie personnelle, c'est voilà. Vrai, vous avez raison, c'est vrai. C'est vrai, merci Marie-Ève.
Je vous embrasse très fort.
Moi aussi.
Profitez de ces dernières heures à l'antenne.
Je vous embrasse Marie-Ève, merci.
Merci à vous.
Christian est à Saint-Rome de Cernon, dans l'Aveyron. Bonjour Christian.
Oui, bonjour Jean-Jacques.
Oh Christian, ça va?
Oui, ça va, toi aussi?
Oui, ça va, Christian. Bien sûr que ça va. Voilà. Ouais, c'est pas facile ce matin, mais en même temps, vous parler, échanger, comme je le fais depuis tant d'années avec vous, c'est.
Voilà.
C'est pas première facile, chose, mais. Ouais, vas-y, Christian.
Première chose, toute dis-moi. La famille se joint à toi pour ta dernière. Voilà. Et tu sais, dans notre vie, il y a des dates que j'ai relevées. C'est quand tu t'es engagé avec José Bové contre le gaz de schiste.
Oui, je me suis battu avec José Bové contre le. C'est la seule fois de ma vie où je suis entré dans une forme. Je déteste le militantisme. Je le dis. Je déteste tout ce qui est parti, tout ce qui est. Moi, je suis indépendant. Mais là, cette fois, il fallait défendre un territoire, défendre notre territoire. Et donc, cette fois, je me suis engagé. C'est vrai. Je me suis battu contre les gaz de schiste. Il y avait des fous. Vous vous rendez compte? Les gaz de schiste. On n'en parle plus aujourd'hui. Vous vous rendez compte, si on avait permis ça, où on en serait? Où on en serait?
Le sous-sol serait souillé.
Mais oui, mais oui.
L'eau potable ne serait plus potable.
Mais
et
oui.
Ça, au pays du Roquefort et partout en France, on peut te dire un grand merci. Parce que Montebourg, la folie du gaz de schiste, aujourd'hui, on voit aussi qu'il est avec les abeilles. Tu vois le fossé qu'il y a.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
C'est parce que le journaliste a pris. Les bras au corps et des paroles et passer aux actes. Et on t'en remercie.
Eh bien là, Christian, ça me fait plaisir. Tu me rappelles un moment de ma vie. Oui. Une seule fois dans ma vie, je suis allé dans une manifestation, c'était à Nantes, c'était dans l'Aveyron, et là, j'ai pris la parole, je me souviens, à la tribune, avec José Bové, et on s'est battu contre ces gaz de schiste qui voulaient venir polluer notre belle région et polluer la France. Heureusement qu'il n'y a jamais eu de gaz de schiste dans ce pays. Bien, merci beaucoup, Christian.
Oui,
merci.
Simplement.
Oui.
Après, voilà, on te remercie parce que tu nous as invités dans les studios à Paris.
Oui.
Ça, c'est du souvenir énorme. Et c'est aussi quand tu es venu prendre le repas à la ferme.
Je me souviens. Qu'est-ce que j'ai bien mangé. Et ça n'arrêtait pas. Les plats se succédaient les uns derrière les autres. J'étais avec mon beau-père, Georges Niva, que je salue d'ailleurs, parce que lui aussi a compte beaucoup, parce que voilà un homme si cultivé. Si intelligent. Oui. Vous savez, dans la vie, parfois, vous êtes éclairé par un homme, par une femme. Voilà un homme qui m'a tellement appris que je voulais le remercier au passage. Voilà.
Et Louis.
Ah ben Louis était là, évidemment qu'il était là. Ah. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci Christian. Toute la famille. Tu embrasses toute la famille. Hein.
Oui. Je vais juste en finir.
Dis-moi.
Tu vas continuer l'actualité politique.
Oui.
Si tu pouvais inviter enfin M. Beignet, parce qu'il entraîne tout bousiller.
M. Beignet, le patron de Lactalis. Mais alors, tu sais qu'il ne parle jamais, j'aimerais bien l'inviter. Oui. Il ne parle jamais.
Oui.
Il refuse.
Nous, on veut dénoncer son silence. Et si avec Anne, par la suite, vous voulez fouiner dans le secteur du rayon Roquefort, mais venez, il y a beaucoup de choses à dire.
Le Roquefort, Saint-Rome de Cernon, merci Christian. Le Roquefort de Christian, c'est une pure merveille. On l'a dégusté ici dans la rédaction. Il est 6h52, allez, à tout de suite.
RMC, c'est déjà demain.
Avec Anthony Morel, Anthony.
Oui, bonjour Jean-Jacques. Oui, pour cette dernière chronique, je me suis dit que c'était l'occasion rêvée de retracer votre grande histoire d'amour avec la technologie. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot.
Ça, c'est sûr, vous avez raison.
Et pour vous faire un petit aveu aussi.
J'écris tout à la main.
Mais je sais bien, c'était mon grand combat, mais il est perdu. Mais je voulais faire, pendant ces 6 saisons qu'on a passées ensemble, je peux vous le dire maintenant, faire cette confession, c'est que mon seul et unique objectif, ça a été de vous transformer en geek. Ça n'a pas tout à fait réussi. Et surtout, un de mes petits plaisirs coupables, ça a été de vous déguiser contre votre gré. On va voir quelques images. Vous n'avez pas toujours été très coopératif, mais vous avez quand même donné de votre personne. On a vu, par exemple, que vous portiez avec une grande élégance le casque de réalité virtuelle. Vous avez téléporté sur les hauts d'un gratte-ciel new-yorkais. Vous qui avez le vertige, en plus, je sais pas si vous vous souvenez. Petit côté Daft Punk, cool. Ça vous allait bien. L'hiver, vous avez pu arborer un magnifique bonnet musical Bluetooth qui vous allait comme un gant, lui aussi. Je sais pas pourquoi vous l'avez pas gardé pour les interviews politiques. Je pense que pour déstabiliser Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, ça aurait très bien fonctionné. Et puis il y a Jean-Jacques Skywalker aussi. J'ai quand même pu me battre au sabre laser contre Jean-Jacques à l'occasion de la sortie de je sais plus quel Star Wars. Ça, c'est un truc que je pense je pourrais mettre sur mon CV. C'est battu au sabre laser contre Jean-Jacques Bourdin, c'est quand même pas anodin. Et tout ça, c'était pas gagné d'avance parce que faut être quand même honnête, votre rapport à la technologie, il est plutôt conflictuel, on va le dire comme ça. Et pour se résumer par cette phrase, de toute façon, ça marche jamais comme on voudrait. Je me souviens vous avoir vu vous acharner pendant 5 minutes sur un écran tactile qui ne fonctionnait pas avant de vous rendre compte que l'écran n'était pas tactile et que c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Je vous ai empêché de balancer mon enceinte vocale Alexa parce qu'elle avait eu le malheur de prédire en direct une défaite du Nîmes Olympique. Elle avait raison pourtant. Et parmi les Jean-Jacques, elle a eu raison. Et puis parmi les objets que je vous ai présentés, l'un de ceux qui vous ont le plus plu, c'était un smartphone incassable que vous avez pris un malin plaisir à balancer à travers le plateau pour voir s'il ne se cassait pas. Il s'est pas cassé, c'est vrai. Et j'ai vite compris aussi ce que vous aimiez et ce que vous n'aimiez pas en matière d'innovation. La technologie déshumanisante, voilà, ça vous plaît pas. Bon, je sais qu'on vous verra jamais au volant d'une voiture autonome, que vous ne troquerez jamais votre fidèle stylo pour un assistant vocal, même si c'est pratique, et que si un drone s'aventure au-dessus de votre maison Cévenol, il prendra probablement une volée de chevrotine. Et au final...
J'ai pas de chevrotine, je me débrouillerai.
On va le dire comme ça, voilà. Mais j'ai quand même trouvé une faille. La faille, c'est l'innovation gardoise. C'est un peu le totem d'immunité de Koh-Lanta dans Bourdin Direct, c'est-à-dire si je présente une innovation, un maillot de bain connecté mis au point par une start-up parisienne, c'est nul, ça sert à rien. Mais si c'est une start-up nîmoise, c'est l'invention de l'année, forcément. Voilà. Alors avec tout ça, est-ce que j'ai fait de vous un geek? Non, évidemment, et ça n'a aucune importance en fait. L'important, c'est qu'on ait pu parler au-delà de ces gadgets des lames de fond technologiques qui comptent vraiment, l'intelligence artificielle, la robotique, la santé connectée, mettre en avant aussi la richesse de l'innovation française. Et vous avez toujours pris ça avec à la fois un regard critique, mais aussi une grande bienveillance. Et j'insiste sur ce mot, bienveillance aussi, quand on a parlé de jeux vidéo. C'est un sujet qui est souvent très maltraité, malmené dans les médias généralistes.
C'est vrai.
On en a parlé avec sérieux, on a fait venir des champions d'e-sport, on a parlé de Fortnite à de nombreuses reprises. Et pour être tout à fait honnête, quand cette chronique a commencé, et c'était votre idée, je pensais qu'elle durerait 3 mois maximum, que la tech c'était une comme le font beaucoup d'antennes, une lubie qui passerait et qui lasserait. Et 6 ans plus tard, je peux que constater que je m'étais planté dans les grandes largeurs. Et donc, je vous dis un grand merci. Et je vous ai rapporté le smartphone incassable si vous voulez le jeter une dernière fois.
Ah, bah, voilà. Merci.
Faites-vous plaisir, balancez-le.
Bon, allez.
Allez-y. Voilà.
Alors,
c'est bon.
Il est cassé ou pas?
Non, évidemment pas.
Bravo. Un bon exutoire. Bon.
Merci.
Jean-Jacques, oui, vous allez faire gagner votre dernière machine à café dans un instant. D'abord, un petit clin d'œil de Mickaël.
Merci Jean-Jacques de nous avoir réveillés pendant tant d'années, pour nous avoir gardé les yeux ouverts sur le monde et notre société. Et n'oubliez pas qu'avec la cafetière, il y a toujours les capsules qui vont avec.
Oui, c'est vrai. Qui vont avec, mais c'est pas beau, hein. Capsules qui vont avec, oui. Mais Stéphanie est là.
Oui.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour Jean-Jacques, très heureuse de...
Vous savez que vous êtes ma dernière gagnante,
et
hein,
oui,
Stéphanie.
Très émue, vraiment très émue. Et puis je ne risque pas de vous oublier, car je suis née le même jour que vous.
C'est pas possible.
Et oui.
Non mais c'est incroyable. Mais c'est comme quoi, c'est incroyable. Stéphanie, ça fait longtemps. Comment avez-vous découvert RMC, Stéphanie?
Vraiment, bon, ça fait très longtemps que j'écoute RMC et un matin, j'ai décidé de mettre RMC et je ne vous ai plus quitté.
Ah, et ben voilà,
donc
Stéphanie.
Ça fait très très longtemps.
Ben merci beaucoup, vous avez gagné votre machine à café et
merci
les capsules
beaucoup.
Qui vont avec.
Oui.
Hein, Stéphanie? Merci beaucoup. Merci,
merci
Stéphanie.
Merci à vous et bonne continuation.
Ben, merci. On va continuer. Vous savez qu'à 8h30, on sera ensemble. Tous les jours.
Oui, toujours.
Merci Stéphanie. Oh là là, je suis déjà en retard comme d'habitude. On va voir que je vais pas changer mes bonnes habitudes. Le dernier jour. Il est 7h.